Aujourd'hui, vous êtes accompagné d'Eressa et Julia et de chez Joseph. On est à l'écoute de VOA.
Bonjour, au micro Eressa et Julia pour cette édition du Monde. Ici aux États-Unis, les autorités de l'État de Washington ont annoncé ce mercredi une nouvelle enquête sur la mort d'un autre américain lors de son arrestation par la police en mars, alors qu'il se plaignait d'être asphyxié, comme George à Minneapolis le mois dernier. George Floyd, dont la mort a déclenché des millions aux États-Unis et dans le monde contre les brutalités policières et le racisme. La décision du gouverneur démocrate Jesse fait suite à la diffusion d'une vidéo prise par la caméra de surveillance en particulier qui montre Manuel S. Monodé suppliant les policiers lors de son interpellation le 3 mars. Une passante a aussi parfois enregistré la scène à l'aide de son téléphone. Pendant ce temps, le frère de George Floyd a lancé hier un vivant appel à la commission parlementaire implorant les élus américains de mettre un terme à la souffrance des Africains américains et d'adopter des réformes sociales des forces de police. Les membres républicains de la commission parlementaire ont tenu un discours comparable à celui du président Donald Trump qui a annoncé une mort triste tragique, tout en mettant l'accent sur un discours sécuritaire insistant sur les violences commises en marge des manifestations. « La douleur de votre frère est devenue celle de l'Amérique », a dit l'entraîneur à Philonie Floyd, tout en attribuant les violences policières à des pommes pourries et non à un système à réviser. 70 000 morts en Amérique latine et aux Caraïbes, dont plus de la moitié au Brésil, et 2 millions de sont contaminés ici aux États-Unis. La pandémie de coronavirus a franchi de nouveaux seuils sur le continent américain dans la nuit de mercredi à jeudi, alors que l'Europe envisage d'ouvrir ses frontières extérieures en juillet. Aux États-Unis, où l'on déplore maintenant 112 900 décès, la Banque centrale anticipe en 2020 une baisse du produit intérieur brut de 6,5% avant un fort rebond de 5% en 2021 et une croissance plus modeste de 3,5% l'année suivante. La Fed prévoit un taux de chômage de 9,3% en 2020 et de 6,5% en 2021. En février, avant l'arrêt de l'économie, il était à 3,5%, son taux le plus bas en 50 ans. Pour sa part, l'Organisation de coopération et de développement économique appelle les gouvernements à se moderniser pour l'avènement d'une économie plus juste et plus durable, alors que l'économie mondiale devrait connaître une récession d'au moins 6% aggrave les inégalités selon l'OCDE. Le service d'aide de l'État sénégalais sera allégé de quelque 137 millions d'euros cette année grâce au moratoire décidé par les pays G20, un ballon d'oxygène qui servira à lutter contre les conséquences de la pandémie de coronavirus selon le gouvernement sénégalais. Le président Macky Sall avait salué le 10 avril, avait retenu la décision du G20 de suspendre des pays les plus pauvres parmi lesquels nombre d'États africains, mais il avait persisté à réclamer l'annulation plus que réaliste selon lui de cette dette. Au Niger, Samira Sabou, une influente journaliste blogueuse nigérienne, a été arrêtée hier et accusée de diffamation de ses publications sur l'affaire des surfacturations lors du chef d'État militaire, l'armée nigérienne, avant appris auprès de l'Amnesty International et des sociaux. Samira Sabou est litigée par une plainte pour diffamation déposée par le vice-directeur de cabinet adjoint du président Mahamadou Issoufou. En Libye, au moins 7 personnes ont été tuées hier dans l'explosion de mines en banlieue sud de la capitale Tripoli, alors que les États-Unis ont appelé les belligérants à reprendre rapidement le dialogue.
La suite de nos informations, les démocratiques du Congo, 9 civils ont été tués en Ituri est du pays. Au total, 538 personnes ont été massacrées dans la région depuis octobre. Le point avec Eddie Isango.
La société civile doit les miliciens de la secte ethno-religieuse dite coopérative pour le développement du Congo. Ils ont fait une éruption dans le village de Lenga, dans les territoires du Congo où ils ont tué et les blessés une autre. Une femme et ses enfants sont parmi les victimes, selon Richard Dida Kondo, chef coutumier Kala. Il a ajouté qu'ils ont été incendiés et les habitants ont vraiment des morts. Les porte-parole de l'armée Jules Ngongo a confirmé cette attaque sans fournir des bilans. L'armée a affirmé avoir tué ces actions, dont celle d'un commandant. Selon l'ONU, 131 civils ont été tués par les groupes armés en Ituri, dont 375 depuis ça. En janvier, les Nations Unies estimaient que 701 personnes ont été tuées dans cette région depuis décembre 2017. La CDI, Fatou Bensouda, a promis d'envoyer bientôt une équipe pour aider sur ces tueries qui pourraient se constituer des crimes contre l'humanité.
En Côte d'Ivoire, la commission électorale a débuté hier une opération de révision des listes électorales, prévue pour deux, surtout d'une présidentielle très attendue.
La révision des listes électorales doit se dérouler dans les agents de recensement seront déployés sur plus de 10 000 centres dans le pays et plus d'une centaine à l'étranger pour la diaspora. La commission électorale indépendante, recensement, mais espère enrôler le maximum parmi les 5 millions d'Ivoiriens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Cette année, la révision des listes a un enjeu particulier. Les élections présidentielles et législatives sont prévues le 20 octobre prochain. Les trois grands partis, le RHDP et le PDCI, seront impliqués dans cette opération, a même lancé l'opération inondation électorale pour encourager ses militants à s'inscrire massivement. Il s'agit d'une opération sensible dans un pays qui a déjà connu des tensions électorales. Entre deux faits sur une qui a causé la mort d'au moins 3000 personnes, les municipales et régionales par des violences.
L'Assemblée générale annuelle des Nations unies se tiendra en sommet virtuel du 22 au 20 en raison de la pandémie de coronavirus. C'est une première. Eric Manira Kidza.
De ces recommandations, les 193 membres unis devront faire parvenir à l'ONU une vidéo de leur représentant d'une durée maximum de 10 établie à New York pourra assister à la retransmission des vidéos dans la grande salle accessible aussi sur le site internet de l'ONU. Ce diplomate pourra, le cas échéant, lire le discours. Tous les présents devront obligatoirement porter un masque et respecter la distanciation physique. Le sommet relatif est programmé pour le 21, mais sera soumis aux mêmes conditions précises dans sa lettre. Tidjani Mohamed Band, président de l'Assemblée générale, n'a jamais été annulé depuis 1945. Il a été reporté après les attentats du 11 septembre 2001 et en raison d'une crise financière en décembre 19.
La Minute Éco, Nani Galani.
Au Soudan, l'autorité de lutte contre la corruption a confisqué un compte bancaire appartenant au président déchu Omar el-Béchir et pour financer son régime. Selon les autorités, le compte saisi servait de deposit des millions de dollars chaque mois. En décembre, un tribunal soudanais avait condamné l'ancien chef de l'État à 2 ans de prison pour corruption. L'Égypte s'organise pour ouvrir des pyramides aux plages de mer Rouge, mouvement du Caire. L'année touristique 2020 s'annonçait prometteuse dans un secteur qui soumettait à peine de l'instabilité. Quelques 15 millions de touristes étaient attendus, contre 13 millions en 2019, avant que les vols internationaux ne soient suspendus le 19 mars en raison du nouveau coronavirus. Terminons par la justice sud-africaine qui a ouvert ce mercredi le dossier contre l'autorité pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Les producteurs exigent l'annulation pure. Il est difficile d'imaginer une usure draconienne qui a mis à l'arrêt une industrie et causé ton appelé Arnaud Swell pour une indépendante et équitable du tabac.
À présent, les sports avec Yacouba.
Bonjour à tous. Le championnat nord-américain est fini pour un tournoi à huis clos à Orlando, en Floride. Le tournoi intitulé MS Isaac entendait la août à Disney World. Les rencontres qui se disputaient sous forme d'une phase de saison régulière de MS arrêtée en mars après seulement 2 semaines de compétition. Le protocole médical devra nous passer des COVID-19. Chaque veille de match, les équipes commenceront à arriver à Orlando le 24 juin pour des entraînements de pré-saison et de match. Chaque club disputera un contre durant ce tournoi au format inspiré de la Coupe, puis des matchs à élimination directe. Football de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande pour organiser le mondial féminin en 2023 apparaît mieux armé face au Japon et la Colombie, selon le rapport dévalué par les deux nations d'Océanie, a reçu la meilleure moyenne globale, 4,1 sur 5, devant le Japon, 3,9 et la Colombie, 2,8, et censé éclairer le final de son conseil le 25 juin. Dans son rapport dévalué, liste hors de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande au premier structure de sport. Et un engagement financier prévoit un match d'ouverture à Auckland, une finale à Sydney, pour cette première Coupe du Monde à 32 équipes contre 24 lors de la dernière édition 2019 en France. En boxe, les contours britanniques et Anthony Joshua se précise qui earn le promoteur d'Anthony Joshua pouvoir organiser le premier affrontement à l'été 2021. Il dit négocier depuis plusieurs semaines avec l'entourage de Fury, UBC, pied un combat d'unification des titres avec Joshua qui règne sur les catégories WBA, IBF et WBO. Avant d'éventuelles retrouvailles entre Fury et ce dernier doit défendre ses ceintures contre le bulgare Kubrat Pulev, un affrontement en juillet, mais qui ne se déroulera pas.
Écoutez VOA Afrique désormais, partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 474 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 474 de Canal+.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Burundi est désormais plongé dans le deuil depuis l'annonce mardi de la mort du président Pierre Nkurunziza. Qui va donc remplacer le président défunt? La question, on l'imagine, sera au centre des échanges ce matin lors d'un conseil des ministres extraordinaire convoqué par le secrétaire général du gouvernement. Cette question de la vacance du pouvoir est d'autant plus cruciale que le traverse une phase de transition avec un président élu qui n'a pas encore pris fonction, deux vice-présidents et surtout deux présidents de l'Assemblée nationale, tous techniquement potentiels successeurs de Pierre Nkurunziza. Essayons d'en savoir davantage avec Frédéric Bamvugi Nyumvuira, ancien vice-président du Burundi.
Aujourd'hui, les institutions qui sont en place sont consignées dans la Constitution de 2005. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous avons pratiquement deux vice-présidents, alors que la Constitution actuelle parle d'un vice-président et d'un premier ministre. Autrement dit, le gouvernement en place est justifié par la Constitution de 2005. Maintenant, par rapport au remplacement en cas de vacance de poste du président de la République. Pratiquement, dans la Constitution de 2005, il est dit que pour un empêchement temporaire, le président de la République est remplacé par le premier vice-président. Et pour la Constitution actuelle de 2018, il est dit que le président de la République, quand il n'est plus capable d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le vice-président pour une cessation d'activité temporaire et en cas d'absence d'empêchement définitive, l'intérim est assuré par le président de l'Assemblée nationale.
Est-ce que ce dernier était le préféré de Nkurunziza pour lui succéder?
Le problème, à mon avis, n'est pas celui-là. L'Assemblée nationale est élue, existe bel et bien. Et par conséquent, le président de l'Assemblée nationale, il est sortant. Donc, il va prétendre aujourd'hui remplacer le président de la République parce qu'il y a une nouvelle Assemblée nationale, seulement qu'il n'a pas encore désigné son bureau.
Qu'est-ce qui va se passer donc à la fin du deuil qui a cours en ce moment?
On ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, je pense que les responsables de l'État, ça veut dire le premier vice-président, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, seraient en train de se rencontrer pour voir ce qui doit être fait. Parce que ce sont eux qui doivent aujourd'hui imaginer le scénario le plus acceptable.
Est-ce que les généraux peuvent rester à l'écart, parlant de scénario?
Voilà, les généraux, justement, compte tenu de l'expérience et de la façon dont ils s'impliquent dans tout le jeu politique, je ne crois pas à que les généraux puissent rester à l'écart. Et surtout que ce sont les mêmes généraux qui ont imposé le candidat Évariste Ndayishimiye pour qu'il soit leur candidat. Maintenant qu'il a été imposé jusqu'à être le successeur de Nkurunziza, il devient difficile que ce groupe de personnalités puisse être tenu à l'écart, compte tenu justement de l'enjeu politique du moment.
Frédéric Bamvugi Nyumvira, ancien vice-président du Burundi.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Amnesty International a publié un rapport dénonçant les violations commises dans le cadre de la réponse militaire à l'insécurité au Mali, au Burkina Faso et au Niger, trois pays confrontés à des mouvements djihadistes armés, comme le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et le groupe État islamique au Grand Sahara. Arzuma Compaoré a joint à Dakar Ousmane Diallo, chercheur à Amnesty International.
Ces violations-là ont eu lieu entre les mois de février 2020 et les mois d'avril 2020 et ont lieu dans le sillage du sommet de Pau de janvier 2020 par lequel ces États, à travers le G5 Sahel, renouvelaient leur engagement à lutter contre les groupes terroristes présents dans le Liptako-Gourma et à intensifier leurs actions militaires.
Cette lutte contre ces groupes armés terroristes, qu'est-ce qui rend cette lutte si difficile?
Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en considération lorsqu'on regarde les violations qui ont été commises dans la plupart des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Au Mali, on approche presque d'une décennie de lutte. Donc le conflit a commencé en 2012, les opérations militaires ont commencé depuis, on est en 2020. Il y a certainement une usure auprès des forces de sécurité qui subissent les attaques des groupes armés et qui souvent répondent de manière complètement brutale et excessive à l'encontre des populations qui vivent dans ces zones d'opération-là et qu'elles suspectent des fois d'être sympathiques ou bien d'appuyer de manière ponctuelle les groupes armés. Ce qui est le plus important aussi, c'est que les États doivent impulser une nouvelle dynamique pour mettre fin à l'impunité. Parce que le fait qu'il y ait eu plusieurs violations au cours des dernières années, qu'il y ait eu des promesses d'enquête qui ont été formulées par les États, mais qui n'ont jamais abouti à des responsabilités clairement établies et des sanctions pénales, renforce ce sentiment d'impunité et la perpétuation de ces abus et le cycle de violence et de représailles.
Mais est-ce qu'ils ont des droits finalement, ces groupes armés? Comment soutenir en fait vis-à-vis d'un terroriste qu'on appréhende, qu'on sait qu'il vient de tuer une cinquantaine de personnes?
Donc dans ce cas-ci, je vais clarifier quelque chose. Ces personnes qui ont été arrêtées et victimes des violations des droits humains par les forces de défense et de sécurité n'étaient pas des terroristes. Ce sont des personnes civiles qui ont été arrêtées lorsque l'armée est intervenue dans des villes comme Djibo ou Ouaregouya ou dans des forts hebdomadaires comme ce qui s'est passé à Massabougou dans le cercle de Nyono. Donc il n'y a pas de lien établi avec les groupes armés. Et même s'il y avait un lien établi, toute personne qui est arrêtée a aussi des droits que la justice doit respecter, que les autorités militaires doivent respecter. L'absence de l'État et la faible présence peut contribuer au renforcement de la présence de ces groupes armés-là et aussi au climat d'insécurité qu'on voit à l'heure actuelle qui se manifeste par des abus commis par les groupes armés et les violations commises par les forces de défense et de sécurité dans le cadre de leur réponse à la présence des groupes armés.
Ousmane Diallo, chercheur à Amnesty International.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, le pouvoir malien sous pression. Des milliers de manifestants ont déferlé dans les rues de Bamako à l'appel de l'influent imam Mahmoud Diko la semaine dernière pour exiger la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ces manifestations se tiennent dans un contexte sécuritaire alarmant dans le centre du pays, mais aussi en pleine crise économique et sociale. Nous ferons le point sur la situation politique et sécuritaire au Mali avec nos invités ce jeudi 11 juin 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Au Cameroun, les autorités annoncent que le pays va entrer en récession économique en conséquence de la pandémie de COVID-19. Selon les chiffres officiels, la baisse d'activité fera perdre au Cameroun 5 points de croissance et plus de 500 milliards de francs CFA de recettes publiques. Pour faire face à la situation, le président Paul Biya a signé une ordonnance qui rectifie la loi des finances adoptée en décembre 2019. Mohamedou Oumfa nous en dit plus.
Au milieu de l'année 2020 et un peu plus de 3 mois après la confirmation du premier cas de coronavirus au Cameroun, l'impact de la pandémie se fait sentir sur l'économie. Selon l'Institut national de la statistique, les entreprises sont confrontées à la baisse de la demande, aux difficultés d'approvisionnement et de financement. 13% des entreprises du secteur informel et 15% du secteur formel sont en situation d'arrêt temporaire ou définitif. Particulièrement touchés sont les domaines de l'éducation, du tourisme, de la restauration et de la construction. Pour l'économiste Dieudonné Issomba, cette situation était prévisible.
Il n'y a rien de surprenant à ça. Et c'est d'autant plus que le Cameroun a été obligé d'appliquer les mesures de confinement qui réduisent l'activité, assurent sur le plan indirect à travers le ralentissement des économies. Ils font jour le jour. Donc il suffit qu'il y ait une baisse d'activité pour qu'elle soit extrêmement...
...de 4% de son PIB cette année table désormais sur une baisse. L'État va ainsi perdre un peu plus de 500 milliards de recettes publiques, soit près du dixième du budget national. L'économiste du Donné Somba en investissement public.
Pour le gouvernement du Cameroun, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile à gérer. Le gouvernement sera obligé d'abandonner. On est très bien que le pays est confronté à une crise sécuritaire.
On s'y a effectué des ajustements. Le président Biya a signé une ordonnance qui corrige la loi 19. Les dépenses des ministères vont baisser de 20% en dehors des ministères et de l'éducation. Ça répond économique et sociale. Enfin, pour faire face à la crise, le Cameroun a sollicité l'appui de ses partenaires, dont les millions de dollars annoncés le mois dernier par le FMI.
VOA Afrique en direct de Washington.
Ici aux États-Unis, les manifestations consécutives à Floyd font monter la pression sur Joe Biden, le candidat démocrate présumé à la présidentielle, pour qu'il choisisse, déjà promis, comme vous le savez, de nommer une femme à la vice-présidence. Américaine perçue comme les meilleures candidates se trouve ainsi politique. Un état d'île, Brian Padden, repris ici par Lionel.
Dans le sillage de protestations contre l'injustice raciale ici aux États-Unis, vient de choisir une Africaine-Américaine comme vice-présidente. Surtout au moment où certains accampent d'attiser la fureur en brandissant la menace d'envoyer l'armée nationale rétablir l'ordre. Des analystes, Joe Biden n'a pas le choix. Naomi Carter est professeure de sciences politiques à Howard University, ici à Washington.
Il doit avoir quelque chose à offrir aux électeurs noirs. Et ça ne peut pas simplement se limiter à dire que Donald Trump est une terrible personne. Il faut quelque chose de plus substantiel que ça.
Le présumé candidat dans s'est lui-même engagé à choisir une femme hautement qualifiée comme vice-présidente. Les électeurs noirs, mais la sénatrice californienne Kamala Harris, sous le feu de projecteur. Fille d'immigrés indiens et jamaïcains, ayant perdu contre Biden, primaire démocrate, Kamala Harris émerge comme une candidate de choix. Dans le même temps, les perspectives de la sénatrice du Minnesota, Amy Klobuchar, une autre rivale de futur démocrate, se sont apparemment estompées. Klobuchar a critiqué pour n'avoir pas vigoureusement poursuivi les affaires de brutalité policière du envoi des procureurs dans le Minnesota. Autre possibilité, Kishalas Bottoms, le maire d'Atlanta, en Georgie, presque inconnu au plan national, elle a acquis d'importance après avoir prononcé un grand discours sur les émeutes dans la ville et congédié policiers pour usage excessif de la force.
Nous comprenons que nos officiers travaillent très longues heures et sous une pression énorme. Mais nous comprenons également que le recours à une force excessive n'est jamais acceptable.
Val Demings, député de Floride, est aussi de plus en plus citée. Elle était l'une des responsables de la procédure de destitution du président Trump, mais elle est critiquée pour son rôle d'ancienne chef de police d'Orlando. L'ancienne députée de l'État de Georgie, Stacey Abrams, qui a perdu une course serrée pour le poste de gouverneur de cet État fortement républicain, et l'ancienne conseillère de la sécurité nationale, Susan Rice, sont d'autres possibilités. Certains observateurs estiment que Stacey Abrams n'a aucune expérience de poste à l'échelle de l'État, comme gouverneur ou sénateur. Kuna Cook, analyste politique.
Je voudrais insister sur ce point, car c'est quelque chose de définissant les qualifications d'une certaine manière. Cela tend à perpétuer les inégalités que nous voyons.
Alors, certaines femmes démocrates blanches, comme la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren et la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer, peuvent avoir plus d'expérience, selon les analystes. La fraude actuelle contre le racisme et les brutalités policières peut faire d'elle une policière africaine-américaine, un impératif politique moral pour Biden.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde.